Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère en forme, à l'abri. Merci à vous d'être au rendez-vous chaque samedi matin. Nous voilà bien. Vous le savez, c'est votre magazine pratique du week-end. On vous délivre de précieuses infos et des conseils avisés pour vous simplifier la vie, faire des économies, vous régaler et adoucir un peu votre quotidien bouleversé. Votre mission, si vous l'acceptez, est de rester à notre écoute de 9h15 à 10h sur RTL. Et la nôtre, elle commence maintenant. On parlait la semaine dernière de notre budget course qui explose. Éviter le gaspillage alimentaire permet aussi de faire quelques économies. Mais qu'en est-il des yaourts, des confitures, des œufs ou encore des produits cuisinés dont la date limite de consommation est dépassée? Doit-on jeter tous ces aliments? Olivia Détroya, journaliste conso et agroalimentaire au Figaro, vous expliquera lesquels vous pouvez manger ou pas. Le travail favorise certains troubles musculo-squelettiques. Mais qu'en est-il du télétravail? Comment éviter les douleurs physiques quand on travaille chez soi? Julien Paco, ostéopathe et spécialiste des postures du travail avec sa société Écologie du Corps, vous donne tous les trucs et astuces pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Et puis, pour varier un peu nos repas, et si on se laissait tenter par les salades composées, Angèle Ferremacte, chef et créatrice de la guinguette d'Angèle, va vous convaincre de vous y mettre avec des recettes gourmandes et enfin originales.
Ne me jette pas, consigné chez toi, me jette pas, ou jette-toi avec moi.
Jeter. On aimerait éviter de jeter. Évidemment, on est contre le gaspillage alimentaire. Et puis, dans cette période si singulière qu'est le confinement, on s'interroge évidemment sur les dates limites de consommation de nos produits. Olivier Détroya, bonjour. Merci d'être avec nous.
Bonjour Flavie.
Vous êtes journaliste confiné, mais journaliste consommation et agroalimentaire au Figaro. On va faire un point sur cette situation, car on s'interroge tous, peut-être encore plus aujourd'hui. C'est quoi la différence d'ailleurs entre la date limite de consommation d'un produit, donc la DLC, et la date de durabilité minimale, la DDM?
Oui Flavie, on s'y perd un peu parfois. La DLC, en fait, c'est la date limite de consommation. Donc c'est le fameux à consommer jusqu'à, vous savez, qu'on voit sur nos produits et au-delà duquel il est dangereux de consommer un produit. À ne pas confondre donc avec la date de durabilité minimale, la DDM, c'est l'ancienne date limite d'utilisation, vous savez, qui correspond au à consommer de préférence avant. C'est-à-dire que si vous dépassez la date, il n'y a pas de risque sanitaire, mais plutôt un risque pour vos papilles, puisque le fabricant ne garantit pas que le goût, la texture, la teneur en vitamines ou en minéraux des produits soient toujours intactes. Donc le produit est toujours bon, mais il est moins bon.
Et il est toujours bon jusqu'à quand, quand même? Est-ce qu'il y a une date à laquelle il ne faut surtout plus consommer?
Non, mais en général, les produits qui ont une DDM peuvent être gardés plusieurs mois, voire plusieurs années s'ils sont stockés dans un environnement convenable.
D'accord. Comment ces dates sont-elles déterminées et par qui en fait?
Alors, elles sont déterminées par le fabricant. Donc, ça peut être un industriel qui vend en grande surface, une PME ou un petit producteur qui vend sur des marchés. Tant que le produit est emballé, et à part sur certains produits, comme le vinaigre, le sucre, le sel ou les confiseries, eh bien, elles sont obligatoires et elles sont de l'entière responsabilité des fabricants. Alors, ils les déterminent tout simplement au terme d'un processus assez poussé dans des laboratoires de tests de vieillissement sur les produits. C'est pas évident, mais les industriels ont travaillé à allonger ces dates limites de consommation justement pour lutter contre le gaspillage. Sur les yaourts, par exemple, les DLC il y a 30 ans étaient de 10 jours maximum et aujourd'hui, elles sont en moyenne de 30 à 35 jours en moyenne. Alors malgré tous ces efforts, on voit que ces dates de consommation sont encore responsables de 15 à 20% du gaspillage dans nos frigos.
C'est-à-dire que des gens, en fait, jettent immédiatement alors qu'ils pourraient conserver des produits chez eux et les consommer.
Voilà, exactement. Et ça se voit notamment sur les DDM, où les gens, quand ils voient que la DDM est dépassée, ils se disent « ce produit n'est plus bon », alors que ce n'est pas forcément le cas. On le voit par exemple sur le riz ou sur certains produits d'épicerie sèche qu'on pourrait toujours consommer.
Alors, quel dommage. Les produits surgelés, comment ça se passe, Olivia ?
Alors, pour le coup, les produits surgelés, ils se conservent beaucoup plus longtemps, mais attention, pas éternellement. Parce que même s'ils sont non périssables, ils peuvent connaître une évolution sensible au bout de quelques mois. Sur les produits industriels congelés, il est clairement indiqué une DDM qui est assez longue. Sur les fruits et légumes, par exemple, c'est 2 ans. Ou les pommes de terre pré-cuites, vous savez, ces petites pommes de terre carrées qu'on aime bien faire sauter pareil. 2 ans, les poissons panés, les plats cuisinés, c'est 2 ans. Les glaces, 1 an et demi. Et un peu moins pour les poissons gras, comme par exemple le saumon, c'est 9 à 10 mois au congélo, pas plus.
Ok, mais alors par exemple, vous parliez des petites pommes de terre ou des plats, je veux dire, préparés, surgelés qu'on pourrait avoir chez soi. Si on a ouvert le paquet, si le produit il a été ouvert, ça change quelque chose à la date limite de consommation ou pas? Ça la réduit?
Oui, ça change. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un produit, la date limite de consommation ne vaut plus. Alors c'est notamment pour les produits sous vide par exemple ou qui doivent être conservés à l'abri de la lumière comme le lait. Quand on ouvre un produit, il y a tout un ensemble de paramètres comme l'air, l'oxygène qui accélèrent le vieillissement du produit et donc la prolifération des bactéries. Et on voit souvent d'ailleurs à côté de la DLC sur les produits une mention consommée 48 heures ou 2 ou 5 jours après l'ouverture. Donc en regardant les produits, c'est assez explicitement mentionné.
En ce moment, il y a pas mal de monde aussi qui cherche justement à congeler soi-même des produits. On peut faire des plats et décider de les congeler pour éviter d'avoir à sortir. Combien de temps est-ce qu'on peut garder un produit qu'on congèle nous-mêmes? Comment est-ce qu'on peut savoir
déjà,
ça?
Déjà, vous savez, Flavie, qu'on ne congèle pas un produit qui a été déjà décongelé, parce que ça, la congélation, ça ne tue pas les bactéries, ça neutralise la prolifération. Alors, combien de temps on peut les garder? En théorie, très longtemps. Mais si vous voulez pas manger une viande totalement desséchée ou des fruits et des légumes sans aucun goût, il y a quelques règles à respecter. Déjà, emballez vos produits. Si c'est des fruits et des légumes, vous pouvez les garder 3 mois. Pour garder tout le goût et les qualités nutritionnelles. Mais il vaut mieux les avoir blanchis dans l'eau bouillante 2 à 4 minutes avant de les mettre au congélateur. Le pain ou les viennoiseries, c'est 1 semaine. Sinon, le pain devient vite friable. La viande, ça peut aller jusqu'à 18 mois, surtout si le morceau est gros. En revanche, vous oubliez de congeler tous les fruits et les légumes qui ont beaucoup d'eau, comme la pastèque, la salade... le concombre, la tomate, la pomme de terre non plus, qui perdrait toute sa texture. Dans ces cas-là, il vaut mieux faire une purée, par exemple, ou du coulis de tomate, et puis les congeler. Et dernière chose, un aliment à éviter, le transformer, ça se conserve beaucoup mieux. Et le dernier aliment, surtout à éviter au congélateur, c'est le jaune d'œuf, puisqu'il cuit au froid. Donc, si vous le mettez dans un congélateur, il va cuire. Exactement.
D'accord, pardon, ça me fait marrer, c'est complètement différent.
Non, mais vous pouvez mettre le blanc par contre. Vous pouvez mettre le blanc.
Ah oui.
Et d'ailleurs, en décongelant, ça facilite, il se monte plus facilement pour faire des meringues ou des œufs battus, c'est beaucoup plus facile.
Ah bah merci pour ce bon plan, justement. Angèle,
si Benoît,
qui va nous retrouver à la fin de l'émission, justement, doit le connaître, à mon avis. Je voudrais qu'on vienne sur la date limite de consommation. Est-ce qu'on est vraiment à un jour près sur la date limite de consommation? Est-ce qu'on a un jour près? Est-ce que c'est dangereux d'aller au-delà?
Alors, on peut pas dire que c'est dangereux, mais on ne peut pas dire que ça ne l'est pas. Donc, en fait, ça dépend de votre degré de courage, si vous êtes téméraire ou pas. Alors, est-ce qu'on est à un jour près? Probablement pas. En général, un industriel se laisse toujours une marge de sécurité de 5 à 15% selon les produits et les procédés de fabrication. Ça dépend aussi des conditions de transport, de conservation dans votre frigo et puis surtout du type de produit. Un yaourt qui est périmé depuis 2 jours ou 3 jours, c'est pas très grave. Mais en revanche, une viande, c'est beaucoup plus sensible. Donc là, il faut vraiment faire attention. Et puis, sachez que si vous dépassez la DLC... et que vous avez un souci, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas et vous ne pourrez pas vous retourner contre le producteur.
Alors, vous restez avec nous, Olivia. On a encore quelques questions à vous poser, évidemment, sur ce sujet passionnant. Et puis, je ne sais pas si vous avez quelques problèmes de dos pendant le télétravail, mais Julien Paco, qui est ostéopathe, nous rejoindra sur cette antenne parce qu'il va nous donner plein de super conseils qui peuvent vraiment, vraiment changer notre quotidien. Et puis, on le disait, évidemment, on va terminer cette émission avec des super recettes, celle d'Angèle Ferromat. À tout de suite, Olivia, sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Merci d'être chaque samedi au rendez-vous de Nous Voilà Bien. Dans un instant, Julien Paco, qui est ostéopathe et spécialiste des postures de travail, va nous donner plein de conseils pour ne pas souffrir du dos en cette période de télétravail. Mais pour l'heure, on retrouve Olivia Détroya. Il n'est jamais trop tard, nous chantait Luis Mariano. Enfin, il n'est jamais trop tard pour consommer. On s'intéresse aujourd'hui aux dates limites de consommation, aux dates de durabilité minimale. Bref, jusqu'à quand pouvons-nous consommer les produits que nous avons chez nous et notamment dans notre cuisine? Olivia Détroya, vous êtes donc journaliste conso et agroalimentaire au Figaro. On poursuit notre conversation. On a appris plein de choses déjà dans cette première partie de l'émission. Qu'est-ce qu'on risque de consommer un produit périmé?
Vous risquez tout simplement d'être malade, Flavie. Avoir une méchante intoxication alimentaire.
C'est un peu la problématique du moment quand même. La maladie,
ouais,
déjà, ça nous fait tous flipper.
Ouais. Ouais, donc surtout dans ces périodes compliquées, il faut éviter de jouer avec la viande ou de la crème fraîche douteuse. Tout simplement parce qu'il y a des bactéries qui s'y sont développées. Donc ça peut être des salmonelles, de la listeria ou du staphylocoque doré. Donc en général, c'est très désagréable. C'est des vomissements, des diarrhées, mais c'est bénin. En revanche, ça peut être très grave pour des personnes plus à risque comme les enfants en bas âge, les personnes âgées ou les femmes enceintes. Oui, donc surtout en ce moment, il faut mieux éviter d'être trop aventureux sur ce genre de choses.
Alors, quels aliments périmés il ne faut surtout pas manger?
Alors, on a parlé de la viande rouge, hein, comme la viande hachée, le poisson frais, qui est un réservoir à bactéries, les œufs aussi. Alors les œufs, c'est particulier, ils ont une date de consommation recommandée qui est de 28 jours après la ponte. La charcuterie, qui est très sensible à la salmonelle. On a les fromages aussi, surtout s'il y a des traces de moisissures, et tous les produits laitiers en général. Et enfin, vous le disiez tout à l'heure, Flavie, les plats cuisinés, qui sont des produits sensibles, ça se voit souvent si la boîte ou l'opercule qui les protège est bombée. Là, ça veut dire qu'en général, méfiance. Et puis, il faut faire attention, même si c'est plus rare, surtout pour les produits industriels, il arrive qu'un produit se périme avant la date limite de consommation, parce qu'il a été mal stocké ou mal emballé. Donc, en général, si vous avez une viande qui est brunâtre ou visqueuse, ou des œufs ou du beurre qui sentent mauvais, il faut jeter.
Oui, donc il faut s'en remettre aussi à son instinct et à son bon sens.
Exactement.
Hein, il y a des produits qui ne trompent pas, quoi.
Ouais, on dit regarder, toucher, sentir, et puis s'il y a quelque chose qui vous semble
Ça vaut aussi pour la bouffe, ça, donc. D'accord, ok.
Exactement.
Okay. Et alors, les aliments stars de la conservation, quels sont-ils?
Donc, c'est le sucre, le sel, qui est un conservateur bien connu d'ailleurs, hein, le vinaigre, le miel, ne se périme jamais, les haricots secs, tous les légumes secs, les chewing-gums aussi. D'ailleurs, sur ces produits, la réglementation européenne, la réglementation européenne n'impose pas de date de consommation. Et vous regardez quand vous faites vos courses, il y a de plus en plus d'enseignes qui ne mettent plus de date limite de consommation, de DDM, pardon, sur ce type de produits. Et après, il y en a plein d'autres, hein, le café soluble, les pâtes. Attention, pas les pâtes fraîches, évidemment. La farine ou le riz non cuit. Donc, pas mal de choses à garder.
C'est la base, en fait, de notre alimentation, hein, voilà, qu'on peut avoir chez soi. Et donc, on conseille à nos auditeurs de ne surtout pas les jeter. Effectivement, ça leur sera pratique en cette période où on ne peut pas forcément sortir. Et en plus de ça, ça permettra de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Exactement.
Olivia, merci beaucoup.
Merci, Flavie.
D'avoir passé ce moment avec nous ce samedi matin. Tiens, on vous retrouve lundi dans le Figaro, un papier passionnant sur nos nouveaux mode de consommation post-confinement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, hein, ces derniers temps. Et bien évidemment, ça va avoir des répercussions lorsque l'on pourra reprendre une vie à peu près normale. Ce sera donc dans le Figaro lundi. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end, Olivia.
Merci.
Je vous embrasse. Salut, Olivia. Julien Paco, bonjour.
Bonjour Flavie, vous m'avez trouvé un super jingle, je trouve.
Oui, je trouve qu'il vous va très bien. Voilà, Julien Paco. Bon, évidemment, la préparation H, c'est pas pour le dos, hein, tout le monde l'aura compris. Mais
merci de la référence. J'avais reconnu.
On peut dire que certains souffrent beaucoup en ce moment. Vous êtes ostéopathe, vous êtes spécialiste des postures de travail avec votre société Écologie du Corps. Alors justement, moi j'aimerais bien qu'on s'intéresse à ça parce qu'en ce moment, le télétravail, ça multiplie quand même les risques de problèmes de santé, non ?
Exactement. On a une perte de repères, on a un manque de mobilité et ça nous fait vraiment basculer notre système de santé dans un mode d'hypervigilance, c'est-à-dire qu'on est constamment sous stress en fait, puisqu'on est hors de notre zone de confort.
Mais alors justement, à quel trouble est-ce qu'on peut être confronté en ce moment ?
Alors, des troubles qui vont être liés à la sédentarité. Moi, c'est surtout ce pourquoi je lutte. Donc, ça va être des troubles digestifs aussi, des troubles circulatoires, et puis des troubles du sommeil, parce que le sommeil est un pilier essentiel de notre santé. C'est un vrai baromètre de la santé. Et si si notre journée est perturbée, nos nuits vont être perturbées aussi, hélas.
Et alors, c'est ça, c'est vraiment uniquement le confinement, la sédentarité qui provoque tous ces troubles ? Ou c'est une conjoncture de plein de choses, de plein de facteurs, le stress, une nouvelle adaptation, enfin.
Voilà, c'est ce que vous venez de dire. C'est une conjoncture de tous ces éléments-là et puis le manque de mobilité qui est vraiment criant. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place par les employeurs à distance pour remettre en mouvement leurs employés parce qu'il y a plus de marge, il y a plus de déplacements et c'est vraiment la lutte. Ça, on le savait énormément déjà avec les seniors. Hein. Il y avait déjà pas mal de campagnes, de pubs à remettre les seniors en mouvement parce qu'on savait l'importance du mouvement pour le maintien de la santé et pour le bien vieillir. Bah, écoutez, maintenant, je crois que ça concerne tout le monde et je suis peut-être heureux d'entendre ça parce que c'est un message qu'on essaye de transmettre, nous qui sommes des médecins thérapeutes manuels où on remet les gens en mouvement, en fait, hein, parce que je suis ostéopathe et l'ostéopathie, c'est remettre le corps en mouvement.
D'accord, ok. Et alors, est-ce qu'on mesure vraiment l'importance d'une bonne posture quand on travaille chez soi ? Moi, je suis en train, alors évidemment, je vous connais, donc régulièrement, vous nous faites passer des messages dans notre vie, dans nos émissions. Mais néanmoins, je suis en train de mesurer depuis 7 semaines maintenant que je suis à la maison. Je travaille dans ma salle à manger, sur un fauteuil qui n'est pas forcément adapté, qui n'est peut-être pas à la bonne hauteur. Il m'arrive d'avoir mal au dos et je mesure l'importance des postures. Est-ce qu'on est en train de vivre une période de prise de conscience, je dirais ?
Oui, c'est sûr, mais il existe des solutions en fait, puisque le propre de l'humain, c'est de s'adapter. Bah, essayez de vous adapter dans votre environnement de travail avec des postures qui vont être le plus ergonomiques possible. D'accord. Donc, il faut essayer de retrouver un petit peu de positionnement correct devant son écran, c'est clair.
D'accord. Alors, par exemple, si je vous dis que je travaille dans mon lit ou sur mon canapé, c'est une mauvaise idée ?
Alors moi, ça me pose aucun problème. Au contraire, je trouve que c'est plutôt intelligent.
Et ah bah oui. Je vais y penser alors. Génial.
Même si les spécialistes du sommeil vous diront toujours que le lit, il est fait pour dormir et que on ne doit pas y traîner pour faire autre chose, notamment travailler. Mais moi, je trouve que c'est intéressant. Sachez que la position où vous avez le plus de pression sur vos disques intervertébraux, c'est la position assise et notamment assise penchée en avant, comme quand on travaille devant son ordi en fait. Et donc, c'est pour ça que cette position est vraiment traumatisante pour le dos.
Mais alors, faut que je bosse allongé dans mon lit, quoi.
Allez, moi, je vous dis oui, ouais. 3/4 d'heure dans votre lit, 3/4 d'heure assis sur le canapé, 3/4 d'heure assis autour de la table à manger. Et pourquoi pas debout avec la table à repasser. Vous pouvez vous aménager une station de travail debout avec votre table à repasser. Ça peut être quelque chose d'intéressant.
Voilà, et vraiment, je précise à nos auditeurs que vous faites des sortes de tutos hein, sur votre site mybodyecologie.com qui sont très intéressants et qu'on retrouve également sur YouTube. On peut effectivement se faire des postes de travail et surtout, on a bien compris qu'il fallait varier les positions. Si je ne possède pas une chaise adéquate, je fais quoi ?
Eh bien, vous adaptez la hauteur de l'assise. C'est l'assise qui va être importante. En général, elles sont trop basses, nos assises que nous avons chez nous. Donc, il va falloir remonter l'assise afin d'avoir, en fait, le coude qui soit au même niveau que le plan de la table. C'est ça le plus important. Vous vous asseyez et vous regardez où se retrouve votre coude par rapport au plan de la table lorsque vous posez les poignets sur la table.
C'est pour ça que j'ai mal au dos. Moi, j'ai les coudes toujours en dessous, là, en ce moment. OK.
Bah oui. Donc, vous avez mal aux épaules, je pense. Vous avez mal à une épaule, à un trapèze. Oh. Bah, voilà,
mais oui, incroyable, c'est... mais vous êtes trop fort, vous. Même à distance, vous savez
distance.
Tout.
Dingue. Oui.
On se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL, Julien Paco. Vous restez avec nous, vous avez encore plein de conseils à nous donner. Est-ce qu'on peut croiser les jambes? Est-ce que la hauteur de l'écran a son importance? Et puis la fatigue visuelle aussi, certains s'en plaignent. À tout de suite sur RTL.
Bonjour. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Merci d'être avec nous. Nous voilà bien, c'est jusqu'à 10h. Si vous vous dites, oh bah dis donc, c'est bientôt la saison des salades composées, et que vous vous dites, oh bah dis donc, je vais faire mon éternelle salade de riz, thon, maïs, eh bien sachez qu'Angèle Ferromac va nous donner plein de recettes beaucoup plus originales et bien plus délicieuses. Mais pour l'heure, on s'occupe de notre dos.
Tiens-toi droit, si tu t'arrondis, tu auras l'air d'une arche. Tiens-toi droit, si tu t'arrondis, tu auras l'air de quoi? Tu auras l'air d'un peu, l'air d'un plus grand chose, l'air d'un intermède.
Bon, on n'a pas l'air de grand chose, et c'est vrai qu'on se regarde travailler en ce moment, Julien Paco, le télétravail qui favorise donc les troubles du dos notamment. Vous êtes ostéopathe, on conseille à ceux qui nous écoutent votre site mybodyecology.com et puis vos vidéos qu'on peut également retrouver sur YouTube avec plein de tutos, plein de choses hyper intéressantes. On revient juste sur la position assise, la position du télétravail. Est-ce que je peux genre être un peu sexy et croiser les jambes comme Sharon Stone, ou est-ce que c'est carrément ridicule? D'abord, je suis toute seule, hein, donc ça changera pas grand-chose, mais je peux être sexy pour moi-même, vous voyez ce que je veux dire. Mais est-ce que c'est bien ça ou pas? Parce que par exemple, ça fait partie de, je pense, des erreurs que je fais.
Alors vous pouvez le faire, personne ne vous en empêchera puisque vous êtes toute seule chez vous comme vous l'avez mentionné. Seulement c'est pas vraiment recommandé rapport au retour veineux. Vous devez imaginer que vos jambes ont du sang qui descend par les artères irriguer vos muscles et qui après remonte par des veines qui ont besoin en fait de mouvement et de pas être trop coudées ou compressées. Alors plus vous avez les jambes pliées et croisées, plus vous empêchez le retour veineux de s'effectuer. Voilà.
Donc la position idéale, c'est quoi ?
C'est d'en bouger et c'est de multiplier les positions. C'est les positions idéales. C'est des positions qui ne vont pas être tenues trop longtemps. C'est vraiment ça, la lutte et le message que je transmets partout où je vais, c'est bouger quoi qu'il arrive. Il n'y a pas vraiment de position ergonomique.
Toutes les heures, à quel rythme ?
Voilà. Voilà, ce qui serait bien, c'est que toutes les heures, de se lever et de changer ses postures, de changer les enjeux mécaniques dans notre corps, puisque le mouvement va régler la digestion, l'immunité, le sommeil. Donc, toute notre santé dépend du mouvement. Je prends souvent l'exemple d'un fleuve, en fait. Notre corps, il doit être comme un fleuve où le liquide circule et non pas un lac ou un étang où ça reste en stagnation. C'est pas bon. Voilà.
C'est pas bon. La hauteur de l'écran d'ordinateur, ça a son importance parce que je vois on travaille sur des ordis portables qui ne sont pas du tout adaptés finalement comme peuvent l'être les ordinateurs au bureau, et on a tendance à avoir toujours le regard vers le bas. Est-ce qu'il faut surélever son ordi au niveau des yeux?
Alors ça, c'est une très bonne question, Flavie.
Merci, Julien.
Le problème, effectivement, c'est que tous nos muscles de la région cervicale, du cou, sont au service de nos yeux. Donc si on a une vision qui est inférieure à l'horizon toute la matinée non-stop, il va y avoir des tensions qui vont se mettre en place. Et l'idéal, effectivement, c'est d'avoir l'ordinateur qui soit un petit peu rehaussé. Alors on va avoir un problème, du coup, avec l'écran, avec le clavier, pardon. Et du coup, il faut peut-être s'équiper d'un clavier externe qu'on rajoute à notre ordinateur portable. C'est la meilleure solution et pas très cher. Un clavier externe, c'est pas très cher à acheter. Voilà.
D'accord, ok. Est-ce que ça favorise la fatigue visuelle? On passe beaucoup de temps sur nos écrans, on passe beaucoup de temps sur nos téléphones et certains se plaignent d'avoir, vous savez, mal derrière les yeux, comme si quelqu'un tirait sur des élastiques, là. Et c'est très, très désagréable.
C'est sûr, la vision, en fait, elle est effectuée grâce à des muscles. Donc, la fatigue visuelle est une fatigue musculaire. Quand on a mal aux yeux, ce sont les muscles des yeux qui sont fatigués et tendus. Le muscle, il est fait pour travailler en phase de contraction et une phase de relaxation, donc en mouvement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir une posture immobile pendant des heures. Les muscles tétanisent, vous voyez. Et donc, quand vous faites un focus de votre vision à 70 cm de vos nez pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, toute la journée, et ben les muscles oculaires, ils tétanisent et ils fibrillent. Et
alors
vous avez du coup des migraines
ophtalmiques. Je peux faire du yoga des yeux ?
Alors, vous pouvez faire du yoga des yeux, vous pouvez faire des poses oculaires, vous pouvez regarder par la fenêtre et changer votre point de mire, regarder le plus loin possible, perdez vos yeux dans le vague pour détendre les muscles. Et effectivement, le yoga des yeux, ce n'est rien d'autre que du stretching des muscles autour du globe oculaire.
Voilà, ce sont des petits exercices que l'on fait à regarder sur la gauche, sur la droite, en l'air,
voilà,
en clignant des yeux.
Exactement.
Et c'est hyper intéressant. Dernière question, réponse rapide, s'il vous plaît, Julien Paco. Il faut boire beaucoup. Oui, mais de l'eau, évidemment, hein, j'entends. Mais ça fait partie des conseils que vous donnez sur vos vidéos.
Énormément. Les muscles ont besoin d'eau, le cerveau a besoin d'eau, et c'est bien lui notre meilleur allié pour la santé, c'est le cerveau. Donc il est vraiment nécessaire de boire de l'eau toutes les demi-heures, tous les trois quarts d'heure, une à deux gorgées d'eau, et c'est comme ça qu'on fait une bonne hydratation. Voilà une réponse claire et nette, toutes les demi-heures. Voilà.
Super, merci Julien Paco pour tous ces conseils.
Mybodyecologie.com,
c'est super intéressant et ça peut en aider beaucoup. Je vous embrasse, excusez-moi, j'ai une salade à faire avec Angèle Ferremac, donc m'en voulez pas, hein. À la prochaine.
Je vous en veux pas. Allez,
salut,
au revoir.
Salut Julien Paco, à bientôt.
Merci.
Ne recommence jamais ça.
Mais qu'est-ce que j'ai fait, monsieur?
C'est rien, mon chéri, tu ne pouvais pas savoir. C'est juste que dans les vieilles familles françaises, on ne coupe pas sa salade avec un couteau, on la plie avec sa fourchette.
Pardon, je suis désolée, je recommencerai plus, monsieur.
Alors, la question se pose, évidemment. Quand on écoute l'extrait de Neuilly sa mère, est-ce qu'il y a forcément de la salade dans les salades composées? Bonjour, Angèle Ferremac.
Bonjour, Flavie.
Oh, je suis trop contente de vous entendre. Comment
moi aussi. Mais très bien, moi j'écoute, je suis une bonne élève, j'écoute les conseils de Julien Paco, je suis
c'est
allongée
super,
dans mon lit.
Ah bah vous avez bien raison, ça ne m'étonne pas de vous, mais j'espère que vous avez bien mis les petits coussins pour être confort et faire attention à votre dos. Vous êtes chef, Angèle, vous êtes créatrice de la guinguette d'Angèle, vous êtes également naturopathe. Alors non mais c'est vrai, la question était sérieuse, il y a vraiment toujours de la salade dans les salades composées? Que nenni.
Mais que nenni, parce qu'en fait une salade ce n'est rien d'autre que manger froid quelque chose qui peut être en fait tout plein de choses. Donc en fait dans la salade composée, on n'est pas obligé de mettre de la salade, on peut tout à fait mettre des légumes, dont des patates d'ailleurs, on peut mettre des céréales, du riz, du sarrasin, du quinoa, des nouilles de riz, on peut mettre des légumineuses comme des lentilles, des pois, on peut mettre des protéines comme du poulet, enfin on peut vraiment tout mettre.
Mais et ça fait tout un repas, c'est vraiment assez rassasiant, c'est pas forcément une entrée, une salade composée, ça peut faire tout.
Non, exactement, ça peut vraiment faire un repas même très complet. Et puis si on suit les recommandations, on mettra 50% de légumes, 25% de protéines et 25% de féculents. Mais c'est tout à fait équilibré, ça peut faire un vrai bon repas même.
D'accord. Alors donc, un ratio, ça on l'aura bien compris, une sorte de base, je dirais, qui sont quoi? Qui sont les féculents?
Qui sont les féculents, moi je dirais que la base c'est plutôt les légumes, c'est vraiment ça.
D'accord.
Qu'il faut, surtout en ce moment, comme on bouge un peu moins et tout ça, c'est bien de manger beaucoup de légumes, mais ensuite on peut mettre comme je disais, un peu tout, quoi. Après ça dépend si le soir on mange une protéine, on mettra plutôt des féculents le midi ou vice versa, on peut s'équilibrer.
D'accord.
Par rapport à la journée, mais voilà, on met plein de légumes en tout cas.
Enfin, il y a un truc qui est quand même génial, c'est que la salade composée, c'est pas compliqué, hein, je dirais. C'est principalement de l'assemblage. Ça peut se faire en famille. On n'a pas besoin d'être un grand chef pour faire une super salade. On va se retrouver dans un instant parce que vous allez nous expliquer qu'on peut les rendre gourmandes. On n'est pas juste obligé de mettre du riz, du maïs et du thon, quoi, hein, qui est quand même cette éternelle salade délicieuse, hein, mais néanmoins un petit peu tristoune qu'on connaît chaque année. Donc, grâce à vous. Bah oui, grâce à vous, on va apprendre plein de choses et vous allez nous donner des recettes. Ce sera dans un instant. On saura quoi déjeuner et dîner. En tout cas, on pourra faire la bouffe ce week-end.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Demain. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
On apprend plein de choses depuis 9h15 dans Nous voilà bien sur RTL. On a appris tous les secrets des dates limites de consommation de nos produits pour éviter justement le gaspillage alimentaire en début d'émission. Ensuite, on a appris qu'on pouvait travailler dans son lit. Alors voilà, à certaines conditions, bien évidemment, grâce à Julien Paco, ostéopathe, qui nous conseille de bouger toutes les heures et de boire toutes les demi-heures. Donc ça veut dire qu'on s'est mis tranquillement au lit et que pour l'instant, Angèle Ferremacht et moi, depuis notre lit, nous parlons cuisine. Parisienne qui nous accompagne et qui chante la salade, car on parle des salades composées avec vous, Angèle Ferremacht. Bah oui, je suis retournée dans mon plumard, figurez-vous. Hein, voilà. Vous m'avez donné une bonne idée. Non, je plaisante. On parle donc de cuisine. L'avantage des salades composées, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un grand chef, finalement, hein, pour en faire. C'est que c'est à la portée de tous, parce que c'est principalement de l'assemblage. Comment est-ce qu'on peut les rendre un peu plus gourmandes, Angèle? Comment est-ce qu'on peut éviter l'éternelle salade un peu tristoune qu'on refait chaque année?
Bah déjà, on peut vraiment jouer avec les sauces, par exemple. Donc, il en existe infiniment, énormément. On peut, par exemple, mettre du yaourt ou du yaourt de soja avec du citron et de la menthe pour accompagner des concombres. On peut faire des vinaigrettes de tous les pays, des sauces de tous les pays. Donc, vraiment, on peut jouer avec les sauces, ne pas se restreindre à la vinaigrette habituelle. Mais aussi les herbes aromatiques. Là, en plus, ça commence à être la période. Donc, on peut vraiment apporter du peps et des bons petits goûts à nos salades avec, grâce aux herbes. Mais aussi les graines. Donc, des graines de sésame, des graines de lin, des noisettes qui vont apporter du croquant, plein de bons, de bonnes graisses, en plus, des bons oméga. Et en plus, c'est délicieux. Et pourquoi pas aussi ajouter du fromage ou du fromage frais dans nos salades, utiliser des petits croutons avec le pain de la veille, par exemple. Et d'ailleurs, comme vous le disiez, Flavie, les salades, c'est vraiment de l'assemblage et on peut en profiter pour utiliser nos restes. Donc, tous les restes de la veille, le poulet, la ratatouille, je sais pas quoi, on peut, même les pâtes, en fait, on peut vraiment en faire des bonnes petites salades. Et dans cette période, on a tous, j'ai l'impression, atteint une certaine conscience qu'il faut vraiment moins jeter, quoi.
Ouais, c'est ça. Et lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est effectivement transformer nos restes, et la salade composée est un super moyen. C'est intéressant ce que vous dites sur les vinaigrettes, parce que je suis d'accord avec vous, les sauces changent tout. Il y a énormément de choses à découvrir, notamment des huiles, hein, aussi. Je pense à l'huile de sésame qui est plus parfumée. Certains ont tendance à toujours se rabattre sur l'huile d'olive. Or, en Exactement. Réalité, on peut véritablement s'amuser à travers les sauces. Et puis, on peut les rendre plus gourmandes, on l'aura bien compris. Qu'est-ce que vous avez comme recette que vous pouvez là conseiller, livrer à nos auditeurs ce matin sur RTL?
Bah, par exemple, je peux vous donner une petite recette avec de l'huile de sésame, parce que c'est vrai que c'est excellent de varier les huiles. Ça. Déjà, c'est bien meilleur pour la santé. Et en plus, il en existe plein de cameline, de chanvre. Enfin, il en existe tout plein. Mais bon, là je peux vous en donner une, par exemple, avec de l'huile de sésame, donc pour une salade un peu thaï. Donc, on fera une petite vinaigrette avec 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de nyokmam, le zeste et le jus d'un citron ou d'une orange, un petit peu de sucre roux, et puis on va le mélanger avec, par exemple, du poulet filoché de la veille, du radis blanc qu'on aura râpé, une carotte qu'on aura coupée en julienne, pourquoi pas quelques cacahuètes concassées et un bouquet de coriandre, de basilic ou de menthe ciselée. En fait, on a une super salade assez facile.
Oui, et délicieuse, avec effectivement des accents thaï, hein, puisque
Exactement. Vous l'aurez
dit, notamment à travers la sauce, parce que c'est la sauce effectivement qui change tout. Une autre recette?
Bah oui, on peut faire une recette française, par exemple, avec des lentilles. Moi, c'est ce que j'ai prévu de faire pour ce midi. Donc, on va couper un chou-fleur. Donc, on coupe, alors encore une fois, pour éviter de gâcher, on va couper les fleurs, mais aussi le tronc, qui est tout à fait comestible, qu'on n'a pas besoin de jeter. Donc, on mélange, on le coupe assez en petits morceaux. On mélange un peu tout avec les épices qu'on a dans le placard. Donc, par exemple, du piment, du curcuma, de la coriandre, du curry, de l'ail, enfin, un peu ce qu'on veut. On met de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. On mélange bien et on enfourne à 200 degrés jusqu'à ce que ce soit bien doré. En attendant, on va cuire les lentilles du puits, par exemple. On va laver des épinards. On va couper finement des petits radis, parce que tout ça, là, c'est la saison, ça commence à être un bonheur. On mélange avec de l'huile d'olive, du sel, du thym citronné. Et puis pour la sauce, alors là, je vais vous proposer une sauce bien gourmande pour changer un peu de la vinaigrette, pour vous donner des idées. On peut mélanger 2 cuillères à soupe de purée d'amande ou autre purée de lagineux. Donc, ça peut être cacahuètes, sésame, enfin, ce que vous voulez. Avec le zeste et le jus d'une orange, 1 cuillère à soupe de tamari, donc, ou de sauce soja, un petit peu d'huile d'olive si vous avez. On mélange bien jusqu'à ce que ce soit assez crémeux. On verse dans notre salade où on aura mélangé le chou-fleur, les lentilles et les radis. Donc ça va être super bon parce que les radis sont un peu croquants, la sauce est bien crémeuse et puis le chou-fleur est fondant. Donc nous voilà bien.
Ah bah voilà, nous voilà très très bien. Moi j'y étais carrément. Et vous savez, j'étais en train de vous écouter et je me faisais une réflexion, Angèle Ferromax, c'est que la salade composée, ça n'est pas que du cru. On peut effectivement varier les plaisirs entre les légumes crus, les légumes cuits, et ça va donner aussi une certaine personnalité à nos salades.
Exactement, et même dans le cuit, on peut les faire à la vapeur, sauter, rôtir, et même dans le cru d'ailleurs, parce qu'on peut les râper, en faire des sortes de grosses tagliatelles avec l'économe, vous savez, ou les faire finement à la mandoline. En fait, c'est avec tout ça qu'on va pouvoir varier et faire de nos salades quelque chose de délicieux et de grisant, et pas de soporifique.
Oui, même vous avez raison, dans le découpage, ne serait-ce que le découpage des légumes, ça peut tout changer. Et on n'a pas besoin d'avoir 36 matériels pour ça.
L'économe
permet de faire des spaghettis, ouais. Une râpe à fromage permet effectivement de râper des légumes, une mandoline permet de faire des fines tranches. C'est ça, en fait. Quand je vous écoute, je me dis que la salade composée, c'est finalement l'un des aspects les plus ludiques de la cuisine.
Exactement. Je trouve ça très ludique et écologique. Et d'ailleurs, quand on parle de râpe à fromage, j'ai fait l'autre jour une salade très facile. Alors, avec ma râpe à fromage, je râpe une betterave crue, une pomme, du fenouil. Je le mélange avec une bonne vinaigrette, c'est-à-dire 1 cuillère à soupe de moutarde, du vinaigre, de l'huile d'olive, du poivre. Je mélange bien et c'est tout. Et ça fait une super, déjà une couleur d'arc-en-ciel, c'est hyper joli. Et en plus, c'est délicieux, c'est croquant, je vous le conseille.
Oh, bah écoutez, on sait ce qu'on va faire ce midi. Merci beaucoup, Angèle, pour tous ces conseils. Prenez bien soin de vous, de votre petite famille. Et en attendant, on conseille la lecture de vos livres aux éditions Marabout, Délicieusement Green et Eau et Infusion Détox. Et puis toutes vos recettes qu'on va retrouver évidemment sur les réseaux sociaux de Nous Voilà Bien. Je vous embrasse bien fort.
Au revoir, Flavie, merci beaucoup.
Ouais. On a hâte de se retrouver. Je vous embrasse. À bientôt, Angèle.
À bientôt.
À bientôt, au revoir. Ah oui, on peut se le faire, c'est pas interdit à la radio. Hein. On peut s'envoyer plein de bisous et vous remercier pour votre fidélité à ce magazine du samedi matin. Retrouvez cette émission et toutes les autres en replay sur RTL.fr et en podcast sur les plateformes dédiées. Les recettes, je vous le disais, elles vous attendent sur les réseaux sociaux de Nous Voilà Bien. Moi, je vous donne rendez-vous lundi à 14h30 pour On est fait pour s'entendre, votre magazine du partage et de la réflexion sur RTL. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de la première radio de France. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À lundi.